regard sur la philosophie, aux sources de la pensée en Occident. Catherine Mann et Simon Martin sur Radio Grand Ciel. Toute philosophie est une théorie du réel, c'est-à-dire, conformément à l'étymologie grecque du mot théorie, le résultat d'un regard porté sur les choses. Mais ce qui fait la spécificité de la philosophie est qu'elle est moins le type de technique qu'elle met en œuvre que la nature de l'objet qu'elle se propose à suggérer. Car celui-ci n'est pas un objet particulier ni un ensemble particulier d'objets, mais l'ensemble de tous les objets existants, qu'ils soient ou non actuellement présents, bref, la réalité en général, conçue dans la totalité de ses dimensions spatio-temporelles. Je me suis permis de piocher dans les premières lignes du livre de Clément Rosset le principe de la cruauté, cette définition limpide de la philosophie. Le philosophe interprète, mesure, puis doit faire preuve de créativité et d'originalité, en un mot d'art pour mettre tout cela en forme sur le papier, puis, enfin, il propose une théorie de la réalité, en général comme 1 plus 1 font 2, qu'il s'agisse de pommes, de harengs ou de planètes. Dit comme cela, les choses paraissent simples. Or, elles ne le sont pas toujours, pour ainsi dire, jamais. C'est ce que nous allons voir avec Catherine Mann. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. C'est un vaste programme, quoi. C'est le philosophe, c'est celui qui prétend tout élucider, tout comprendre et tout connaître sur tout.
Et ce tout, c'est effectivement, c'est pas quelque chose de particulier, mais c'est quelque chose de général.
Ah oui, c'est le tout en tout.
Alors, on a coutume de les placer à la naissance de la philosophie. Ce sont les sept sages de l'Antiquité. La semaine dernière, nous avons parlé de Thalès, que tout le monde connaît aujourd'hui pour son théorème. Alors, je suis allé voir, car j'avais moi-même oublié ce théorème de Thalès sur les triangles. Je cite, « Dans un plan à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés, définie avec les droites des deux autres côtés un nouveau triangle, semblable au premier. » Catherine dit comme cela, cette idée peut sembler anecdotique, mais finalement, il y a un immense pas qui est fait entre cette abstraction du triangle qui est mis de manière totalement générale, ça marche pas que pour un triangle, mais pour tous les triangles sur Terre, et puis peut-être même dans tout l'univers entier. Et puis, les mythes qui précédèrent la philosophie.
Oui, moi, ma position, elle est plus pragmatique, parce que je me dis que même Thalès et sa géométrie est partie d'une expérimentation d'un regard sur la nature. Il a observé d'abord des choses dans le monde qui l'ont poussé à une réflexion qui arrive à une abstraction. Là, on est d'accord. Mais je crois que, quel que soit le philosophe le plus abstrait, normalement, la pensée sort d'abord d'une présence au monde, d'une expérimentation sur laquelle on n'a pas forcément les mots. Donc parfois, on est plongé dedans, on vit quelque chose, et on se rend compte qu'on n'y comprend rien, et la philosophie, proprement dite, elle émerge avec la parole qu'on met sur l'expérience qu'on a vécue. Mais je crois qu'une philosophie qui n'a pas ses deux pieds ancrés sur terre devient une espèce de parole spéculative creuse qui s'entretient elle-même. Il faut faire attention.
Mais elle devient...
Thalès, c'est pas encore le cas.
Elle devient nécessairement spéculative dans le sens où d'un objet singulier, on va en faire quelque chose de général. Et là, c'est forcément spéculatif dans le sens où, effectivement, on n'a pas encore testé tous les triangles de l'univers et peut-être qu'un jour, on découvrira un triangle qui ne répond pas sur une autre planète, dans d'autres conditions, qui ne répond pas au théorème de Thalès.
Déjà, les mathématiques ont tellement évolué avec les
même aujourd'hui, effectivement,
les lois de la physique, les nombres, j'ai déjà oublié comment ça s'appelle, mais il y a
les univers parallèles et puis la physique quantique, évidemment.
La trigonométrie sphérique a déjà pas mal bousculé la géométrie d'Euclidienne. Donc, il faut être prêt à tout. Le besoin de savoir, effectivement, est toujours avec une idée de « je veux avoir la vérité ». Et la vérité, on a l'impression que c'est quelque chose, en tout cas là, dans ce cas que vous décrivez, qu'on doit trouver la vérité qui est une définition totale de tout et avoir raison, comme on dit, raison. Mais maintenant, je pense qu'on se rend compte de plus en plus que il y a de la relativité dans tout ça et qu'il faut, il faut peut-être être moins excessif dans, le, dans l'idée de tout savoir sur tout. Avec une seule définition.
En tout cas, c'est ce que propose n'importe quel système philosophique.
C'est l'ambition.
C'est l'ambition.
De n'importe quel système philosophique. C'est comme s'il y avait un besoin humain de trouver du repos mental. Arrêter de se poser les questions, avoir enfin les réponses. Et alors, moi, je pense que c'est pas l'accumulation de certitudes qui donne cet état-là. C'est autre chose.
Alors, un autre critère qui semble à la base de la philosophie, vous allez m'arrêter évidemment si je me trompe, en partant toujours de Thalès, c'est que son histoire de triangle, il va la démontrer, il va prouver qu'elle est vraie et on va pouvoir la répéter. C'est affaire de science, effectivement, de pouvoir démontrer, voilà, et puis prouver et puis répéter cette expérience.
Oui.
Or, en philosophie, on va aussi utiliser des arguments pour essayer de, d'avancer des idées. On les avance pas toutes faites, on essaie d'argumenter. C'était le principe de la philosophie. On va arriver nécessairement à un moment donné à des choses qu'on ne va pas pouvoir prouver. La vie après la mort, ou bien oui, tout ce qui est
bien sûr, mais tout ça, ça se mélange avec la science et ça déplace le champ du savoir. Parce que... Mais là, on est bien dans les physiciens avec Thalès. Ils s'appellent les physiciens, physis la nature, c'est les philosophes de la nature, et donc on est encore dans des choses très très pratiques qui peuvent s'expérimenter et se vérifier. Mais déjà quand on parle de l'atome, un peu plus tard, un philosophe commence à penser, les atomes on les voit pas, il les imagine. Donc, mais maintenant on sait qu'ils sont là, donc le réel se déplace au fur et à mesure des investigations. Moi, je vois pas énormément de coupures entre la philosophie et la science, justement parce qu'au départ, les physiciens, c'était des philosophes, quoi. Et ça se spécialise, mais on avance toujours à partir d'une intuition, d'une sensation, d'une question existentielle, qui après, effectivement, peut devenir une méthode scientifique et une logique et une démonstration. Mais même la science, on sait bien que comment est-ce qu'on définit la science? C'est justement quelque chose qu'on peut remettre en question. Ben, c'est vrai pour la philosophie. C'est ce qui est bien finalement dans le système philosophique, c'est qu'ils s'écroulent tous les uns après les autres.
Mais alors, nous avons la physique avec ses premiers philosophes et eux-mêmes font preuve de métaphysique quand ils abordent des questions sur l'origine du monde, sur les principes universels et puis uniques, comme nous avons vu le mois dernier. Alors, comment se fait ce saut intellectuel entre la physique et la métaphysique? Je veux dire, parce que là, on a l'impression, vous allez me dire si je me trompe aussi, on a l'impression que justement, on n'utilise pas les mêmes outils pour essayer de découvrir une vérité physique et puis une vérité métaphysique. Les mêmes outils intellectuels, je parle, évidemment.
Mais je pense que si, moi. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je pense que si. Parce que les questions de départ sont toujours des questions existentielles. On voit bien qu'on a des choses pour lesquelles on peut trouver des réponses et d'autres qui existent derrière, pour lesquelles on ne trouve pas de réponses. Mais ça n'empêche pas de chercher. Et alors on s'obstine à chercher pour trouver et on recule. Moi je pensais même la question de Dieu et de l'origine du monde. Je pensais là au livre des frères Bogdanov, qui sont pas des grands philosophes, mais dans le livre qui s'appelle Le visage de Dieu, où justement ils expliquent comment les expériences scientifiques actuelles déplacent tellement le champ du savoir qu'on remonte jusqu'au Big Bang et même à l'origine du Big Bang et donc on arrive devant des choses que effectivement les philosophes de la nature n'imaginaient pas, mais c'est toujours au départ quelque chose de concret, à mon avis, une expérience concrète sur du rien, mais le fait est qu'on se pose des questions sur l'infini et sur Un autre philosophe actuel que j'apprécie beaucoup, Roger Paul Droit, donc qui est chercheur en philosophie, chercheur, hein, comme si c'était pas un pléonasme, chercheur en philosophie au CNRS, mais il a fait un livre sur le 101 et des exercices pratiques de philosophie. Or, dans ces exercices pratiques, il propose de faire l'expérience de l'infini. Et ça, je trouve parfait, parce que je suis pas sûr que ça soit accessible à tout le monde, mais il donne une petite méthode pour revenir à l'essentiel de la question, cette sensation qu'on a de l'infini, comment la première fois on s'est posé la question, mais l'infini, Dieu, voilà, parce que c'est en nous déjà. Je ne crois pas à une philosophie qui tombe du ciel. Ça, c'est la religion, c'est la révélation, c'est autre chose. La révélation, ça part dans l'autre sens. C'est un peu comme ça que fonctionne le dogme chrétien. On apprend, et même jusqu'à certains points, le judaïsme dont on est issu, la loi de Dieu, elle est tombée du ciel. On la comprend pas, mais on essaie de la comprendre petit à petit, d'obéir, on fait ce qu'on peut. Mais la philosophie, elle fonctionne pas comme ça. Elle part des physiciens, elle part de la philosophe de la nature.
Des sensations.
Sensations ou pas, d'ailleurs, parce que il y a même dans les présocratiques certains qui diront qu'il faut se méfier de nos sensations parce qu'elles nous trompent. Et de là, effectivement, on va aller chercher derrière les sensations où est le vrai et comment nos sensations peuvent nous égarer. Mais il y a toujours un rapport au monde qui est encore enraciné dans le mythe, c'est-à-dire une prise directe sur les choses de laquelle les questions vont naître. Quoi. Le logos, il n'apparaît pas en philosophie comme une révélation. Il apparaît comme une réflexion, une coupure, effectivement. On peut se demander, si je comprends bien la question, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, on se coupe de l'expérience pour le regarder à distance? Ça, c'est, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui fait? Effectivement, on peut se dire, réponse de croyant, que c'est parce que, effectivement, Dieu a décidé qu'à ce moment-là, l'humanité était mûre dans sa progression et permis une espèce de saut qualitatif. Il faut bien qu'il y ait des sauts qualitatifs, sinon on serait encore des singes, si on croit un peu à l'évolution. Donc il faut bien qu'il y ait des sauts qualitatifs qui ont une origine en Dieu et qui sont pas forcément des déductions humaines.
Regard sur la philosophie avec Catherine Mann. Le mois dernier, nous avons vu Thalès et voyons aujourd'hui son disciple Anaximandre de Milet, -610, -545. Et nous allons voir effectivement dans ses préoccupations, Catherine, que nous sommes tout à fait au départ dans l'expérience, puis, c'est-à-dire dans la physique, puis dans la métaphysique. Et une des grandes préoccupations d'Anaximandre, comme de tous les philosophes de l'Antiquité, c'est la politique, c'est-à-dire que la philosophie doit servir les autres, doit servir la société.
Ils sont engagés eux-mêmes, c'est une classe sociale, la démocratie à la grecque, enfin, ou une certaine classe sociale, est forcément dans les responsables selon leurs capacités. Effectivement, Anaximandre fait partie des dirigeants. Il prend le commandement d'une colonie, donc ils prennent la politique très au sérieux et ils partent de cette intégration concrète pour obtenir des résultats. C'est pas mal. Même Platon disait que le monde irait beaucoup mieux s'il était dirigé par les philosophes. Approuvé.
Il y a eu Marc Aurèle.
Oui, non, il y a toujours eu. Je pense qu'on a quand même effectivement intérêt à être dirigé par des gens intelligents.
C'est le moins qu'on puisse demander.
Espérer.
Alors, un autre des champs d'intérêt d'Anaximandre, la géographie, par exemple.
Ah oui. Ben, mais là aussi, il y a toujours eu une curiosité, puisqu'on se déplace en bateau, on veut connaître la ça part d'expériences concrètes, mais il a fait un saut qualitatif dans le fait qu'il veut prendre tellement du recul par rapport à tout ce qui est connu, qui va essayer de dessiner une carte du monde.
C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît totalement anodin, mais penser qu'un type, à un moment donné, a l'idée de prendre assez de recul pour faire une carte.
Une carte du monde connue, c'est-à-dire, c'est son monde ici. Il faut respecter ça, hein, mais effectivement, on voit que la raison s'élève et se détache de plus en plus, accumule des connaissances. Mais à la base, il y a quand même toujours des problèmes concrets, réels. Parce que s'il fait ça, c'est pas juste pour faire une carte du monde connue, c'est pour être utile aux navigateurs, c'est pour être utile au commerce, et c'est quand même pour faire avancer la connaissance.
Tout comme la météo, beaucoup.
Il appelait pas ça la météo, mais l'explication des phénomènes naturels, il essayait de comprendre. C'est normal. On n'a pas ces mêmes questions? Est-ce que vous regardez pas la météo tous les jours pour savoir comment s'habiller? Déjà, ça rend service. Mais il voulait comprendre des choses comme le tonnerre, la foudre. On sait bien à quel point avant, la foudre, c'était dans les mythes, c'est dans la main de Dieu. Donc, alors pourquoi des pluies torrentielles, des ouragans? On se pose quand même toujours ces questions aujourd'hui. Pourquoi? Alors, il a donné une explication. Ben, il analyse les mouvements de l'air.
Qui est plutôt intelligent, quoi.
C'est bien ça. C'est que ce qui est formidable dans les présocratiques physiciens, c'est que leur observation est étonnamment fine. Et il y a beaucoup de choses dont on n'a pas dépassé ces questions. Et puis, il est célèbre, Anaximandre, parce qu'il a prédit un tremblement de terre à Lacédémone, qui a permis aux gens de Lacédémone, c'était Sparte, hein, mais de se sauver avant le tremblement de terre, c'est-à-dire que la ville a été détruite, mais les gens ont été épargnés, parce qu'ils lui ont fait confiance. Alors, comment a-t-il prédit? C'est pas de la divination, c'est de l'observation. On sait bien que certains animaux sentent venir les tremblements de terre, qu'il y a certains signes. C'est une qualité, une acuité de regard sur le monde qui les rend un peu supérieurs à la moyenne et qui leur permet d'être des philosophes, c'est-à-dire des amours de la sagesse, mais ils savent des choses parce qu'ils ont le goût de bien observer.
Et là, on est tout à fait dans le rôle de la science, effectivement, de prédire l'avenir, encore aujourd'hui.
C'est exactement le truc. Donc, alors, dire que c'est de la philosophie ou de la science, moi, je peux pas bien faire de séparation.
Alors, l'astronomie.
Mais avant, il a aussi, il a été le premier à mettre des pendules, des horloges partout. C'était pas des horloges, ça s'appelait des gnomons. Enfin,
pour mesurer le temps.
Les cadrans solaires, en fait, oui. Donc, et aussi pour l'agriculture, savoir quand était le solstice, quand c'était l'équinoxe. Tout ça, c'est des questions pratiques, mais qui ont fait avancer une réflexion abstraite de plus en plus. Alors, l'astronomie aussi.
La circulation des astres.
Mais comment fait-il, justement, pour voir des sphères? Elles sont pas dessinées dans le ciel, et pourtant, l'observation, moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'aujourd'hui on voit même plus les astres, on voit que la lumière nocturne de nos villes, on peut pas faire ces belles observations qu'il faisait, mais il avait suffisamment finement observé le ciel pour parler de circulation et de sphères célestes, et ça n'a pas été démenti par la science. Et c'est pareil, il a bien compris que le soleil, il nous paraissait petit, mais parce qu'il était loin, mais qu'en fait c'était une boule de feu énormément plus grande que la Terre. Il a compris plein de choses par le regard. Alors, mais quel est le regard philosophique? Moi, je suis dans une admiration formidable pour ces gens-là qu'on dit c'est les ancêtres de la philosophie. Ben, moi, je suis pas sûr. C'est les ancêtres au sens noble du terme, alors. On n'a pas beaucoup dépassé, à mon avis, parce que faut pouvoir regarder ça. Il a conçu la Terre comme flottant dans le ciel.
Alors, vous en parliez.
Formidable, quand même.
Vous en parliez avec les cartes, c'est vraiment ce recul que l'intellectualisation, enfin, en tout cas, l'abstraction permet de prendre sur les choses qui permettraient, selon vous, de, justement, d'arriver à des, non pas des conclusions, mais en tout cas des intuitions de cette sorte.
Ça, qu'est-ce que fait que, pourquoi est-ce qu'on étudie, plus on en sait, plus on peut prendre du recul.
Voir les choses de loin.
Voir une vue d'ensemble, c'est valable pour nous tous les jours. Quand on se débat dans une situation qu'on ne comprend pas, on fait beaucoup d'air, peut-être qu'on provoque des ouragans, mais en tout cas, on est pacifié quand on a vu de quoi il s'agissait et maîtrisé la chose, quelle qu'elle soit. C'est un schéma qui est inhérent à l'être humain et qu'on devrait cultiver. Il faudrait faire attention à ça.
Alors, Anaximandre de Milet fut également biologiste et il affirme que l'homme est forcément le produit d'une évolution animale.
Ben ça c'est pareil. Comment hein, alors, c'est vrai que ces réflexions, quand on lit les textes tels qu'ils nous parviennent encore aujourd'hui, on dit c'est bébête, il imagine des trucs par rapport au... Bon, c'est scientifiquement... Mais en même temps, derrière, il y a une intuition vraie. Il avait posé déjà l'idée de l'évolution et qui remonte au poisson, finalement. Est-ce que c'est tellement faux de dire que tout sort primitivement des océans, des bactéries, d'un océan...
On en est là aujourd'hui, évidemment.
On voit des choses extraordinaires dans des intuitions, mais qui partent d'un regard juste posé sur le monde. Un regard... à la fois curieux et qui se fait une mémoire et une compréhension. C'est ça la philosophie.
Il fut également écrivain scientifique.
Alors oui, c'est le on l'a pas son bouquin malheureusement. Presque toutes les œuvres se perdent. Enfin là, c'est vraiment le plus gros travail de récapitulation des connaissances. C'est déjà la première encyclopédie scientifique de son temps. Et on en a des traces, finalement, chez les écrivains suivants, qui citent. On n'a que les traces parmi les citations des philosophes suivants et des... Hélas. Mais c'est quand même un précurseur.
Et c'est là que, comme nous en parlions tout à l'heure, Anaximandre de Milet va faire un saut, quelque part, en passant de la physique à la métaphysique, parce que ces questions d'origine du monde, de principes uniques, qui sont des questions fondamentales, pour le coup, là, qui traversent totalement l'histoire de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, évidemment, vont naître chez ces philosophes-là de manière philosophique. Parce que j'imagine que ces histoires, ces principes dans la mythologie, est-ce qu'elles étaient déjà présentes? Quelque part, il y a toujours une entité première qui crée quelque chose.
On a vu déjà que avec Thalès, on a une explication du monde. On cherche Thalès, il voit que tout sort de l'eau, et donc l'eau est le principe unique duquel il voit sortir tous les
univers. Dénominateur commun, pourrait-on dire.
Il se sert de l'eau comme quelque chose qu'il voit. Par contre, effectivement, Anaximandre lui dit non, ça peut pas être l'eau. L'eau, elle est déjà une matière créée. Or, une source unique ne peut pas être une matière créée. Ça doit être une matière plus fine que ça, une matière autre, ce qu'on appelle une matière éternelle, sans début ni fin, qu'il assimile à un milieu divin. Mais c'est...
Alors on fait quand même un pas vers la mythologie, du coup, ou pas du tout? Ou c'est encore c'est quelque chose d'un peu différent?
Peut-être que c'est de la mythologie, ce milieu divin... Faudrait demander à ceux qui pensent encore comme ça aujourd'hui, mais la mythologie, c'est pas une connaissance obsolète. La mythologie, c'est toujours une manière de penser utile pour aujourd'hui. Les choses qu'on comprend pas, on commence par leur donner une explication. Bon, on fait comme on peut.
Dans un récit, en tout cas.
Et alors, est-ce que cette matière éternelle, moi, je pense, par exemple, en Inde, l'idée de prana. Créateur, quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le prana, cette matière? Personne, mais tout le monde travaille dessus. Donc, je trouve extraordinaire cette idée de matière éternelle, mais on peut effectivement dire que c'est une expérience de départ, parce que c'est une expérience de l'illimité, de l'indéterminé, qui donne peut-être même l'idée déjà de l'infini. Mais l'infini comme une expérience pratique. Parce que, en pratique, il y a des choses qui naissent et des choses qui meurent. Où étaient-elles avant de naître, où sont-elles quand elles sont mortes? Il faut bien que tout, même nous, où est-ce qu'on va quand on meurt? Où on était avant de naître? On était dans cette matière illimitée. Moi, je trouve que c'est à la fois une expérience concrète et métaphysique, si on veut. En tout cas, c'est une pensée par rapport à apparition et disparition des choses.
Et dans cette pensée, même les dieux seraient issus de...
Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est comme c'est une matière infinie et invisible, mais infinie, il y met aussi tout le panthéon. Les dieux, avec un petit dé, ne sont jamais que des êtres invisibles, qui ont leur propre vie, leurs propres problèmes comme nous, on les voit pas, mais bon. Mais ce sont des créatures comme les autres, des créatures spirituelles. À son époque, faut oser, hein. Alors, je dirais qu'en christianisme, ça correspond plus au monde invisible, aux anges et aux autres spéculations, mais c'est pas parce qu'on a dit un ange qu'on sait plus ce qu'on dit, hein. Si on l'appelle Dieu ou ange, oh, quand c'est invisible, c'est invisible. Mais, voilà, le fait est que les choses apparaissent, disparaissent. Dans quoi? Alors, effectivement, le problème était bien mis en évidence par saint Augustin, c'est que les choses apparaissent à partir de ce milieu créateur, mais justement, c'est pas un créateur qui décide. Les choses apparaissent d'elles-mêmes. La différence, d'après saint Augustin, elle est là. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, n'est pas associé à cette matière qui engendre et à quoi tout retourne, bien qu'il y a des familiarités. Hein. Quand on dit poussière, tu retournes à la poussière, bon bah, il va plus fin que la poussière, une matière invisible. Est-ce que c'est un chaos originel ou est-ce que c'est au contraire un chaos intelligent qui est créateur? Et est-ce que Dieu, le Dieu créateur, a un rapport? Voilà. Le débat est ouvert, il faut continuer, mais voilà, ce brave Anaximandre dont personne connaît le nom, il s'était posé toutes ces questions.
Catherine Mann, nous allons conclure avec Anaximandre aujourd'hui. Un grand merci pour cette belle émission qui nous a appris énormément de choses, et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Ben, merci Simon, à bientôt. Thank you.